Du jour, enfin, il y en a un que j'ai rajouté, c'est, on va commencer par celui-là. On le trouve dans Genèse, le livre de la Genèse, au chapitre 18, à partir du verset 20. Genèse 18, verset 20. L'Éternel dit, ce qu'on reproche à Sodome et Gomorre est si énorme. Et leur péché si grave que je vais descendre et voir s'ils ont agi tout à fait comme je l'entends dire. Et si cela n'est pas, je le saurai aussi. Les hommes se détournèrent de là et se rendirent à Sodome. Alors les hommes, il s'agit des envoyés de Dieu, il aurait fallu lire avant, hein, mais peut-être des anges, je ne sais pas, enfin, qui ont rencontré Abraham. Alors les hommes se détournèrent de là et se rendirent à Sodome. Mais Abraham se tint encore en présence de l'Éternel. Abraham s'approcha et dit, « Feras-tu aussi succomber le juste avec le méchant? Peut-être y a-t-il 50 justes au milieu de la ville. Les feras-tu succomber aussi et ne pardonneras-tu pas à cette localité à cause des 50 justes qui sont au milieu d'elle? Loin de toi de faire une chose pareille, mettre à mort le juste avec le méchant, en sorte qu'il en serait du juste comme du méchant, loin de toi. Celui qui juge toute la terre n'agira-t-il pas selon le droit ? » L'Éternel dit, « Si je trouve dans Sodome 50 justes au milieu de la ville, je pardonnerai à toute cette localité, à cause d'eux. » Abraham reprit et dit, « Voici donc que j'ai osé parler au Seigneur, moi qui ne suis que poussière et cendre. Peut-être des 50 justes en manquera-t-il 5 ? Pour 5, détruiras-tu toute la ville ?» Et l'Éternel dit, je ne la détruirai pas si j'en trouve là 45. Pour ça, je vois que le Seigneur s'est compté. Hein, 50.5, 45. Abraham continua de lui parler en ces termes. Peut-être s'en trouvera-t-il là 40. L'Éternel dit, je ne ferai rien à cause de ces 40. Abraham dit, que le Seigneur ne s'enflamme pas de colère et je parlerai encore. Peut-être s'en trouvera-t-il là 30. L'Éternel dit, je ne ferai rien si j'en trouve là 30. Abraham dit, voilà que j'ai osé parler au Seigneur, peut-être s'en trouvera-t-il là 20. L'Éternel dit, je ne la détruirai pas à cause de ces 20. Abraham dit, que le Seigneur ne s'enflamme pas de colère, et je ne parlerai plus cette fois-ci, peut-être s'en trouvera-t-il 10. L'Éternel dit, je ne la détruirai pas à cause de ces 10. L'Éternel s'en alla. Lorsqu'il eut achevé de parler à Abraham, et Abraham retourna chez lui. Alors nous lisons ensuite le livre suivant dans l'Exode, au chapitre 32, Exode 32, verset 30. Alors vous allez voir tout de suite le rapprochement hein, avec le texte précédent. Le lendemain, Moïse dit au peuple, « Vous avez commis un grand péché. » Il s'agit de l'épisode du veau d'or. Donc le lendemain, voilà, Moïse dit au peuple, « Vous avez commis un grand péché. Je vais maintenant monter vers l'Éternel. Peut-être pourrai-je faire l'expiation pour votre péché. » Moïse retourna vers l'Éternel et dit, « Ah, ce peuple a commis un grand péché. Ils se sont fait des dieux d'or. » Pardonne maintenant leur péché, sinon je t'en prie, efface-moi de ton livre que tu as écrit. L'Éternel dit à Moïse, c'est celui qui a péché contre moi que j'effacerai de mon livre. Va maintenant, conduis le peuple où je t'ai dit. Voici que mon ange marchera devant toi, mais le jour de mon intervention, j'interviendrai contre eux à cause de leur péché. L'Éternel frappa le peuple parce qu'ils avaient fait ce veau fabriqué par Aaron. Alors, je suis en train de me dire que je suis pas dans le bon texte, mais il est dans l'esprit. Hein. Il fallait que je lise plus tôt, beaucoup plus tôt que ça. C'était Exode 32 au verset 7. Voilà. Mais c'est intéressant de voir, c'est en fait la suite hein, que je vous ai lue. Alors, donc je reprends Exode 32, verset 7. L'Éternel dit à Moïse, « Va, descends, car ton peuple que tu as fait monter du pays d'Égypte s'est corrompu. » Ils se sont promptement écartés de la voie que je leur avais prescrite. Ils se sont fait un veau en métal fondu, ils se sont prosternés devant lui, ils lui ont offert des sacrifices et ils ont dit, « Israël, les voici tes dieux qui t'ont fait monter du pays d'Égypte. Oula, on coupe les micros, voilà, merci. L'Éternel dit à Moïse, « Je vois que ce peuple est un peuple à la nuque raide. Maintenant, laisse-moi. Ma colère va s'enflammer contre eux et je les exterminerai, mais je ferai de toi une grande nation. » Moïse implora l'Éternel son Dieu et dit, « Pourquoi, Éternel, ta colère s'enflammerait-elle contre ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte par une grande puissance et par une main forte ? Pourquoi les Égyptiens diraient-ils, c'est pour leur malheur qu'il les a fait sortir, c'est pour les tuer dans les montagnes et pour les exterminer de la surface du sol ? Reviens de l'ardeur de ta colère et du regret au sujet du malheur de ton peuple. Souviens-toi d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, tes serviteurs, auxquels tu as dit en faisant un serment par toi-même, « Je multiplierai votre descendance comme les étoiles du ciel. Je donnerai à votre descendance tout ce pays dont j'ai parlé, et ils en hériteront pour toujours. » Et l'Éternel regretta le malheur dont il avait déclaré qu'il frapperait son peuple. Voilà. La suite est intéressante aussi, mais c'était sur cette partie-là que je voulais attirer votre attention. Et puis on va lire un troisième texte, alors cette fois-ci dans le Nouveau Testament, dans l'Évangile de Luc. Alors cette fois-ci, ne pas se tromper de texte, le chapitre 11, Luc 11, verset 5. Luc 11, 5. Jésus leur dit encore, « Lequel d'entre vous aura un ami qui se rendra chez lui au milieu de la nuit pour lui dire, « Ami, prête-moi trois pains, car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi et je n'ai rien à lui offrir. » Si, de l'intérieur, l'autre lui répond, « Ne me cause pas d'ennui, la porte est déjà fermée, mes enfants et moi nous sommes au lit, et je ne puis me lever pour te donner des pains. » Je vous le dis, même s'il ne se lève pas pour les lui donner, parce qu'il est son ami, il se lèvera à cause de son importunité et lui donnera tout ce dont il a besoin. Et moi je vous dis, demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et à celui qui frappe on ouvrira. Quel père parmi vous, si son fils lui demande du pain, lui donnera une pierre? Ou s'il lui demande du poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Ou s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Si donc, vous qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui le lui demandent? Voilà pour les lectures. Mes frères et sœurs, est-ce que nous nous rendons bien compte de ce que nous venons de lire, et notamment ces deux premiers textes dans la Genèse et l'Exode, avec Abraham et Moïse? Est-ce que nous nous rendons compte de quelque chose qui me semble totalement ahurissant? Nous sommes dans la situation où l'homme, en l'occurrence Abraham et puis Moïse, l'homme négocie avec Dieu. Je ne sais pas si le verbe négocier va bien, mais je n'en ai pas trouvé d'autre. Négocier, peut-être marchandage. Peut-on négocier avec Dieu? C'est une question qui me vient immédiatement à l'esprit, parce que bon, bah, très bien pour Abraham, très bien pour Moïse, mais pour nous, qu'en est-il? Peut-on marchander avec Dieu? Quel silence! La question mérite d'être posée. Vous voyez bien qu'ici, Abraham et Moïse ne se jettent pas pour négocier, pour arracher à Dieu une décision différente, même peut-être carrément opposée à celle qu'il a annoncée. Dieu a annoncé qu'il allait détruire les villes de Sodome et Gomorre à Abraham. Alors certes, il le fera, mais Abraham essaye de lui arracher, là aussi je ne trouve pas d'autre terme, de lui arracher une promesse, s'il y en a 50, puis 45, 30, 20, etc., puis il arrive à 10. S'il y en a 10 qui sont justes, Est-ce que tu feras périr cette ville? Est-ce que... Et il obtient. C'est ça qu'il faut retenir. Et Moïse, Seigneur, reviens sur ta décision. Comment pourrais-tu faire mourir ton peuple? Puis alors les arguments, vous avez vu, c'est... Imagine un peu les Égyptiens, comme ils vont rigoler. Ah bah oui, ils pouvaient bien se sauver d'Égypte et nous faire les dix plaies. C'est pour les faire mourir dans les montagnes qui les a amenés là. Il joue sur les sentiments, n'est-ce pas? Et il obtient. Songez tout de même que le dernier verset que nous avons lu sur ce texte, verset 14, « Et l'Éternel regretta le malheur dont il avait déclaré qu'il frapperait son peuple. » L'Éternel regretta. Oui, quand je vous dis que c'est ahurissant ce que nous lisons parfois, alors on connaît tellement ces textes que, bon, c'est la Bible, c'est... Mais mettons-nous deux minutes dans une situation comme si on ne connaissait pas ces textes. Voilà des hommes qui négocient pour arracher une décision à Dieu qui n'est pas la décision initiale qu'il avait avancée. On est très loin ici de la fameuse formule « que ta volonté soit faite ». Alors, y a-t-il contradiction entre Ancien et Nouveau Testament ? Y a-t-il... On va essayer de décortiquer tout ça. D'ailleurs, en parlant de Nouveau Testament, on a aussi lu ce texte, cette histoire, enfin, ce récit, cet enseignement, je veux dire, de Jésus, qui a l'air également d'encourager, de nous encourager à insister, à négocier. Regardez cette histoire de cet homme qui va tambouriner à la porte de son voisin jusqu'à lui casser les oreilles, l'autre il veut dormir. Hein. Mystère, pour l'instant, mais tout va s'éclairer. Vous n'en doutez pas. Alors, il y a plusieurs choses à dire tout de même. D'abord, ne surtout pas oublier qu'on est dans des récits qui ont été écrits dans l'Antiquité, hein, il y a fort longtemps. Et on est dans une culture qui est assez particulière. Vous connaissez les récits, les mythes, les légendes de la Grèce antique ou des Romains, etc. Bon. Et vous savez que ces récits présentent toujours les dieux, finalement exactement comme les hommes, avec les mêmes sentiments, avec des attitudes, des comportements, des paroles qui sont celles des hommes. Ils font des erreurs. Ils se jalousent, ils se mettent en colère, ils ont des réactions typiquement humaines. La seule différence avec les humains, c'est qu'ils sont censés être immortels et qu'ils ont des pouvoirs. Alors certes, nous croyons que la Bible est totalement inspirée par Dieu, c'est-à-dire que le message de chacun des textes, alors là c'est sûr et certain pour le coup, chacun de ces textes est inspiré par Dieu. Mais ceux qui ont écrit ces textes appartenait à cette antiquité et était certainement imprégné d'une culture. Et on voit bien que dans toute la Bible, dans tout l'Ancien Testament surtout, mais également un peu dans le Nouveau, on voit que Dieu est présenté un peu de la même façon, c'est-à-dire toujours avec des réactions calquées sur celles des humains. D'ailleurs, on en a un exemple absolument flagrant. Dans le premier verset que j'ai pu lire du texte de la Genèse, je l'ai de nouveau perdu. Voilà. Verset 20. L'Éternel dit, ce qu'on reproche à Sodome et Gomorre est si énorme et leur péché si grave, que je vais descendre, et voir s'ils ont agi tout à fait comme je l'entends dire. Et si cela n'est pas, je le saurai aussi. Est-ce qu'aujourd'hui, on imagine que, un, Dieu ait besoin de descendre, alors d'où du nuage, de la stratosphère, de par là-haut, quoi, hein? Et puis qu'il ait besoin de descendre pour vérifier, parce qu'il a entendu quelques bruits, pas très sûr, est-ce que j'ai bien compris, je vais aller voir. Vous voyez, c'est une façon de présenter qui est typique de l'Antiquité. Alors, ça peut, si on prend au pied de la lettre, évidemment, on peut être surpris de voir Dieu avec des sentiments humains, y compris le sentiment du regret. Dieu regretta le mal qu'il a là. Est-ce que ça veut dire, parce que là, à ce moment-là, toute une foule de questions nous arrive dessus. Est-ce que Dieu est fiable? Parce que s'il a pris une décision, et puis qu'un homme a arrive à le faire changer à 180 degrés, hein, je veux dire, Moïse, quand même, il le fait renoncer à la destruction du peuple, est-ce qu'on peut lui faire confiance? Est-ce que c'est un Dieu qui, comme on le dit toujours, plein de sagesse, qui est omniscient, qui est inquiétant, non? Alors, je me fais un peu l'avocat du diable, hein, vous en doutez. Bien sûr que Dieu est fiable, mais on va voir comment il faut comprendre ces choses-là. Alors d'abord, hein, oui, le style antique qui pourrait nous induire en erreur, les formules qui sont utilisées ont tendance à nous présenter Dieu comme avec les réactions humaines, tout en étant Dieu, bien sûr. Alors il y a une deuxième chose qu'il ne faut pas perdre de vue. Effectivement, Dieu annonce « Ma colère va s'enflammer contre ce peuple, je vais l'exterminer, ou alors les villes de Sodome et Gomorre, je vais les détruire par le... » Et c'est d'ailleurs ce qui s'est produit, hein, par le feu, le soufre, enfin... Bref, terrible. En réalité, on se rend compte aussi qu'à chaque fois que, dans la Bible, il est question du pardon, de la grâce, alors en particulier dans le Nouveau Testament, mais même dans l'Ancien, à chaque fois qu'il y a la compassion de Dieu, il y a toujours, au préalable, l'annonce de la justice de Dieu. Alors ça, c'est quelque chose que j'ai découvert personnellement, vous avez trouvé ça depuis longtemps, mais j'ai découvert ça assez récemment. Je dis, mais on voit bien, et c'est l'apanage d'ailleurs de Jésus, vous allez voir, c'est que Dieu n'annonce jamais sa compassion, son pardon, comme ça, je passe l'éponge. Il y a toujours un rappel de ce qui devrait être sa justice, ce qui devrait être conditionnel et qui ne sera pas appliqué. Je parlais de Jésus, regardez, comme dans l'ensemble des évangiles, il n'y a pas plus dur que Jésus quand il s'agit de parler du jugement dernier, de la fin du monde. Il n'y a que Jésus, regardez bien, je suis quasi sûr, qui parle de la géhenne, des ténèbres où seront jetés ceux qui n'auront pas accepté le salut, là où il y aura, il aimait bien cette expression, des pleurs et des grincements de dents. Il promet des choses absolument épouvantables. Et puis, dans la minute qui suit, il mange avec les pécheurs, il pardonne, il est sur la croix, et par rapport à ceux qui sont en train de lui cracher à la figure, de l'insulter, de se moquer de lui et de le faire mourir, il dit « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font ». Vous voyez la dichotomie. Alors on se dit, mais Jésus, il est schizophrène, là. Un coup, il promet. Et puis, lisez les béatitudes. Pas les béatitudes, pardon. Le sermon sur la montagne. Vous savez, ce passage où Jésus dit, vous avez entendu dire, et alors Jésus cite un extrait de la loi, et bien moi, je vous dis que... Et puis là, il en rajoute sur la sanction ou sur la condamnation. Vous connaissez ces passages. Une dureté extrême, et puis... Dans l'instant d'après, il annonce la grâce et le pardon, et parce qu'il est lui, personnellement, la grâce et le pardon envoyé par Dieu. Alors, c'est très important parce que, par là, le Seigneur veut nous faire comprendre à chaque fois que le pardon et la grâce, c'est pas comme ça un truc à bon compte et bon marché, qu'il y a un prix énorme à payer. Alors, dans le Nouveau Testament, on le comprend tout de suite. Oui, on reçoit la grâce et le pardon, mais le prix, il est là, hein. Exorbitant, de façon à ce que ce pardon et cette grâce ne soient pas galvaudés, ne soient pas formalités, qu'on comprenne bien jusqu'où Dieu est allé pour nous pardonner et nous accorder la grâce. Donc ça aussi, il ne faut pas le négliger. Dans ces textes de l'Ancien Testament, Genèse et Exode, on voit donc que Dieu annonce quelque chose de terrible, et puis finalement, l'instant d'après, soit alors le peuple d'Israël, le peuple hébreu, il aura quand même une grosse sanction, mais ce sera pas la destruction. Quoi. Et puis, s'il y avait eu effectivement 10 dans la ville de Sodome, eh bien certainement il n'aurait pas procédé à la destruction de cette ville. La justice de Dieu a été d'abord posée, et ensuite, une fois qu'elle est posée, là, Dieu annonce sa grâce. Voilà les deux points qu'il fallait surtout pas perdre de vue. Alors là, on commence déjà à mieux comprendre, peut-être. Alors, restons un petit peu encore sur ces deux textes de l'Ancien Testament. Sans aucun doute, Abraham et Moïse sont ici des intercesseurs. On entre de plein pied dans toute la problématique, je dirais, de l'intercession. Et d'ailleurs, en ceci, ça me vient à l'instant à l'idée, Abraham et Moïse sont tout à fait des préfigurations de Jésus-Christ. Ils intercèdent auprès de Dieu pour sauver le peuple. Et que Jésus-Christ n'a rien fait d'autre que intercéder auprès du Père en se livrant lui-même. D'ailleurs, vous avez remarqué que j'avais pas fait attention, hein, moi jusqu'à maintenant, que Moïse, au tout début, dit prends ma vie, efface-moi du livre. Comment il dit ça? Moïse implora l'Éternel son Dieu et dit j'ai perdu aussi. Alors reviens de l'ardeur de ta colère, souviens-toi d'Abraham. Ah non, ça c'est. Oui, c'est quel verset?
Je sais plus.
Oui, c'est bien ça, j'ai pas rêvé, hein, j'ai bien lu. Il se sacrifie, il dit détruis-moi, mais préserve ce peuple. C'est l'intercesseur, image de Jésus vivante, n'est-ce pas? Abraham, lui, ne va pas si loin, mais en tout cas, il intercède. Et si, quand même, Abraham prend un énorme risque, on voit avec quelle précaution il dit malheur à moi, j'ai parlé à l'Éternel, c'est-à-dire j'ai osé contredire l'Éternel, mais que ta colère ne s'enflamme pas contre moi. Mais est-ce que s'il y en avait 20, s'il y en avait 10, vous voyez, il prend aussi un risque énorme. Donc, voilà le sujet qui m'intéresse ce matin, c'est cette attitude parfaite, de l'intercession parfaite. Nous avons lu ce texte, cet enseignement de Jésus dans l'évangile de Luc. Alors il faut quand même, attention, ne pas faire de confusion, parce qu'en première lecture on pourrait se dire, Jésus nous raconte donc cette histoire de cet homme qui va harceler son voisin pour obtenir quelque chose en pleine nuit, un bout de pain, enfin pour eux. Bon. Donc, conclusion, il faut harceler le Seigneur. Pas du tout. Lisez bien. Jésus dit, voilà ce qui se passe chez les hommes, hein, c'est qu'on est capable d'obtenir, parce que, par importunité, comme il dit, c'est-à-dire parce qu'on casse les oreilles de celui de qui on veut obtenir quelque chose. Alors, à combien de plus fortes raisons le Seigneur, lui, vous donnera ce qui est bon parce qu'il a envie de vous les donner, parce que lui, il n'est pas. Hein. Alors déjà, ne pas faire cette erreur. Mais à partir de là, là aussi, beaucoup de questions nous arrivent. L'intercession, ok. Mais l'Évangile nous invite à intercéder. Alors déjà, une première précision, l'intercession, la véritable intercession, c'est pas pour soi, c'est pour les autres. Bien sûr, on peut demander des choses pour soi-même, hein, au Seigneur, mais je le sens plus dans le sens où on demande pour les autres. Ce qui n'empêche pas que les autres pourront demander pour nous. Et vous voyez, déjà, il s'établit une sorte de, au travers de l'intercession, une sorte de solidarité entre les hommes. Prier les uns pour les autres. Prier, c'est formidable. Parce que par ce système, le Seigneur nous a inventé un système qui renforce les liens. Et je crois que c'est parfois beaucoup plus productif, comment on pourrait dire, beaucoup plus efficace, de dire à nos frères et sœurs, mes frères et sœurs, priez pour moi, j'en ai besoin, plutôt que de prier nous-mêmes, à ce moment-là, pour nous-mêmes. Donc voilà une première chose. Pourquoi l'intercession? Fondamentalement, réfléchissons bien, l'intercession, elle suppose quand même de la compassion. Lorsque nous prions pour un frère, une sœur qui souffre, un problème, un peuple, pour une situation vraiment dramatique, etc., je vous pose bien la question, quelle serait la valeur de notre intercession s'il n'y a pas de compassion? S'il n'y a pas cette dimension d'amour, parce que compassion suppose amour. On ne peut pas avoir compassion pour quelqu'un qu'on n'aime pas, franchement. Alors, il y a encore une question qui me vient là. Mais donc Dieu, pour l'intercession, fait appel à notre compassion. Mais n'en a-t-il pas suffisamment lui-même pour les gens qui souffrent? Vous voyez, je suis un peu basique, hein, ce matin, mais c'est des questions que le monde un peu en, en marge, vous voyez, qui s'intéresse à la foi, mais qui n'est pas encore bien dedans, là. Ah, mais s'il y avait un Dieu, là, soi-disant Dieu d'amour, mais qu'est-ce qu'il attend pour agir, pour ceci, pour cela, pour solutionner les problèmes? N'a-t-il pas de compassion? Bien sûr que Dieu a une immense compassion, mais pourquoi sollicite-t-il la nôtre? A-t-il besoin de renfort? Eh bien, là, c'est resté un mystère longtemps dans ma préparation de cette prédication. Je me suis dit, cette question, elle est vraiment basique et en même temps, flûte, j'arrive pas à y répondre. Et tout doucement, je me suis dit, mais il y a. Je vais prendre un parallèle et vous allez comprendre tout de suite. Oui, par rapport à un autre sujet. L'annonce de l'Évangile, l'annonce de la parole de Dieu. Bon. Ne croyez-vous pas que Dieu serait bien assez puissant, bien assez capable de propager sa parole tout seul, et peut-être même avec bien plus d'efficacité que nous? Eh bien, il nous demande, il nous a chargé, nous, ses disciples, de propager sa parole. Il nous a fait le cadeau extrême, le cadeau énorme, de nous confier cette tâche, alors que, je le répète, il pourrait l'amener tout seul, lui-même, avec beaucoup plus d'efficacité. Alors évidemment, ça suppose que ce cadeau, c'est aussi une responsabilité. Si des milliers, des millions d'hommes, de femmes ne sont pas encore évangélisés, n'ont pas encore reçu la parole de Dieu, c'est peut-être à cause des disciples qui n'assurent pas leur tâche. Et bien je me suis dit, mais c'est peut-être exactement la même chose avec l'intercession. C'est-à-dire que, bien sûr que Dieu a suffisamment de compassion pour agir tout seul, avec efficacité, et je crois qu'il le fait dans bien des cas, pour guérir, pour solutionner, pour apaiser, pour régler des situations effroyables. Mais, une fois de plus, il a confié à ses disciples, à ses enfants, le soin, eux, d'avoir compassion pour ceux qui souffrent. Et une fois de plus, cadeau énorme, parce que c'est très, je dirais, très honorifique. Dieu nous confie une tâche formidable et en même temps responsabilité énorme. Parce que si nous n'avons pas de compassion, donc pas d'amour, peut-être les choses ne s'arrangent pas, les souffrances ne s'apaisent pas, les tensions ne s'apaisent pas non plus, etc., etc. Je me suis dit, mais c'est vrai que comment savoir si, lorsque j'intercède, lorsque je suis dans une prière d'intercession, je vais prendre un exemple. Ben voilà, je connais un frère dans l'église qui vraiment est dans une période très difficile et qui souffre. Alors, comme je suis un bon chrétien, n'en doutez pas, j'espère, je suis un bon chrétien, je vais prier. Donc, on évoque le sujet, donc là, sur mon banc, là, avec tout le monde, ben, je prie, Seigneur, viens en aide, et pose ta main sur ce frère ou cette sœur qui souffre. Et puis le lendemain, c'est déjà oublié, c'est déjà loin, c'est parti, terminé, quoi. C'était sur le coup comme ça, petite émotion, là. Ben, elle est où ma compassion? Elle est où ma compassion? Par contre, si le lendemain, ça me trotte encore dans les... Je me remets chez moi, n'importe où, au travail, à un moment donné. Je me remets dans la prière, je dis, Seigneur, il faut vraiment que tu fasses les choses. Et puis le surlendemain, même chose. Et puis la semaine d'après, je continue, tous les jours. Ah, mais là, c'est différent. Là, j'ai la preuve, à mes propres yeux, que ma compassion est authentique et véritable. Et là, je vous dis... Je vous le dis, moi qui suis à ce micro, je vous le dis, là le Seigneur, eh bien, il y a des chances qu'il réponde. Alors parfois ça peut durer longtemps. Alors, on parle toujours d'un combat dans la prière. Pourquoi le Seigneur, il fallait dire une bêtise, est-ce que le Seigneur se fait prier? Ben oui, c'est le cas de le dire. Est-ce qu'il se fait tirer l'oreille? On va aller faire mijoter un peu. Mais non, comment voulez-vous, mes frères et sœurs, vous rendre vous-même compte de l'état de votre compassion pour telle et telle souffrance, telle et telle difficulté, si dans la durée vous n'êtes pas capable, nous ne sommes pas capables de prier jour après jour et avec persévérance, opiniâtreté et volonté. Voilà le mystère. J'espère avoir éclairé et éclairci un petit coin de ce grand mystère qui est la prière d'intercession. Oui, comment ? Alors, le Seigneur, lui, il connaît nos cœurs. Il le sait, il sait ce qu'il y a dans nos cœurs, il sait si nous avons la compassion réelle, si nous sommes dans la sincérité. Mais nous ne le savons pas toujours. Et moi, parfois, quand je prie pour... vous savez, l'autre jour, ça m'est arrivé, j'ai ouvert le magazine de Portes Ouvertes. Alors là, on a une avalanche de sujets de prière, vous n'imaginez pas. Enfin, si vous êtes abonné à Portes Ouvertes, vous voyez un peu la situation de ces chrétiens qu'on assassine, qu'on torture, qu'on discrimine, et ça dans le monde entier. Et puis régulièrement, quand je lis des articles dans ce magazine, je suis déjà un peu dans la prière. Je dis, mais Seigneur, apaise, Seigneur, soulage ces souffrances, etc. Et là, une fois de plus, si le lendemain c'est déjà oublié, à quoi est sert cette compassion? Ce n'est pas une vraie compassion, donc ce n'est pas une vraie intercession, ce n'est pas l'intercession que le Seigneur attend de moi. Alors, voilà, revenons maintenant un petit peu sur ce texte du Nouveau Testament, dans l'évangile de Luc. Et il y a quand même quelque chose de surprenant dans ce texte, parce que Jésus, dans un premier temps, avec cette petite histoire de cet homme en pleine nuit qui va demander le prêt de 3 pains pour recevoir un ami qui arrive de voyage. Là, il nous explique simplement la nécessité d'être opiniâtre, de nous cramponner, d'insister, de ne pas se décourager. Bon, ça c'est une première partie. Et puis après, il y a quand même une deuxième partie qui est quelque peu différente. L'enchaînement se fait par cette formule « Demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et à celui qui frappe, on ouvrira. » Mais après, il enchaîne sur une question. Ben, quel père, si son fils lui demande du pain, alors, etc., hein, lui donnera une saleté, quoi. Hein, bon. Et ce qui est intéressant, c'est cette formule typiquement biblique et peut-être même typiquement juive, c'est le « à plus forte raison ». Vous qui êtes mauvais et vous donnez des bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Seigneur qui est bon vous donnera-t-il? Et là, vous donnera-t-il quoi?
Le Saint-Esprit.
Le Saint-Esprit. Alors ça, moi, ça m'a saisi parce que je me dis, mais tout de suite, on se dit, ah ben oui, il faudra que je lui demande une augmentation de salaire, il faudra que je lui demande la guérison de ceci, un petit problème de cela, etc. Alors je vais frapper pour qu'on m'ouvre, je vais chercher pour trouver, je vais demander pour qu'on me donne au Seigneur, et il va me donner le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Eh bien, moi, j'en ai discuté hier soir avec Catherine, et elle me dit, bah, comme quoi, finalement, la meilleure chose qui peut nous arriver, oui, comme quoi, parce que Catherine est parfois inspirée par le Saint-Esprit, elle me dit, la meilleure chose qu'on peut attendre de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Alors, ça, c'est, moi, j'ai trouvé ça extraordinaire, parce que peut-être que, au travers de ce Saint-Esprit, on va obtenir vraiment la chose qu'on attendait, pourquoi pas? Mais là, le Seigneur dit, alors, et ça rejoint un texte formidable qu'on a évoqué au dernier conseil presbytéral, c'est le texte de Philippiens 4:6, de mémoire. C'est là qu'on va voir si je suis un bon chrétien, c'est bien Philippiens 4:6. Philippiens 4:6. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, par la prière et la supplication. Vous notez bien, la supplication, ça suppose la ténacité, l'opiniâtreté, hein, avec des actions de grâce. C'est-à-dire qu'on n'oublie pas qu'en toutes circonstances, on peut louer Dieu, parce que ben, même si on n'obtient pas, il est Dieu, et rien que ça, c'est un sujet de louange. Faites connaître à Dieu vos demandes. Bon, alors mes demandes, ben, une fois de plus, j'ai besoin d'argent, ça, on a toujours besoin d'argent. J'ai besoin de guérison, j'ai besoin de que ça s'arrange dans ma famille, nos relations, etc. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Christ Jésus. Ah, encore une fois. Vous voyez la solution ? C'est la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Alors, il faudrait développer là-dessus, mais je n'ai pas le temps. Qui va nous garder nos cœurs et nos pensées en Christ Jésus. Et là aussi, y a-t-il quelque chose de plus important que de garder nos cœurs et nos pensées en Christ Jésus? Et je pense qu'à partir de là, on peut dire que à chaque demande, puisque le Seigneur dit « demandez, on vous donnera, frappez, on vous ouvrira », eh bien je crois qu'à chaque fois que nous demandons dans l'intercession au Seigneur, nous recevons. Pas forcément directement ce qu'on demande, mais ce qu'il y a de encore plus important, c'est-à-dire la paix du Christ et de garder nos cœurs dans la pensée de Jésus-Christ. Amen.